Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
À tous, un spécial cinéma cette semaine dans Ban Culture. On ne pouvait pas y couper tant les événements se bousculent. Le Festival de Berlin qui vient tout juste de se refermer hier soir, le FESPACO qui prend le relais au Burkina Faso, et puis à venir chez nous au Maroc, le Festival international du cinéma d'animation de Meknès. Le FICAM commence vendredi prochain, ce sera le 3 mars. Un grand nom de ce genre de cinéma y est attendu, un réalisateur qui aime beaucoup l'Afrique, il a grandi à Conakry, l'auteur d'une dizaine de longs métrages d'animation et le père, le créateur de Kérékou.
Il te demande pourquoi Garaba est si méchante.
Garaba la sorcière, pourquoi es-tu méchant?
Les enfants ont fait une chanson sur moi.
Oui, je l'ai entendue.
Kérékou n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant.
Bonjour Michel Oslo.
Bonjour David.
Invité du FICAM, vous êtes un peu un pilier de cet événement, on peut le dire. Hein, c'est un festival que vous suivez depuis ses débuts. Vous étiez là, invité à Meknès, dès 2002.
Mais oui, je me suis dit, tiens, quelqu'un m'invite au Maroc, si j'allais. Et depuis, j'y retourne.
C'était une première pour vous d'ailleurs, le Maroc ?
Oui, 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 à part des escales d'avion à Casablanca. Oui, c'était une première.
D'accord, donc il y a 20 ans, la découverte de Meknès, du FICAM et du Maroc. Qu'est-ce qui fait l'originalité, la force de ce festival à vos yeux, son intérêt ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Mohamed Beyoud est excellent.
Mohamed Beyoud, le directeur artistique.
Oui, créateur du festival. Et il est vraiment intéressé par la chose. Et en très peu de temps, il est arrivé à avoir toutes les vedettes du cinéma d'animation. Il a des atouts avec l'Institut français de Meknès, qui est un oasis délicieux, qui fonctionne très bien. Et on a du plaisir à y être. Il a aussi une grande qualité, c'est qu'il sait sortir de cet oasis privilégié et offrir des films à tout le monde.
Puisque le FICAM, c'est un festival qui vit dans plusieurs sites, sur plusieurs endroits de la ville de Meknès. Il y a aussi notamment des projections à la Belle Étoile en extérieur.
Oui, et puis bon, des projections avec des écoliers, ce genre de choses. Voilà, et donc c'est un lieu très agréable. La ville de Meknès est aussi un élément de séduction de ce festival. Il y a des lieux étranges, des rues interminables entre des murailles interminables. On peut voir aussi son mausolée où les gens de toute région peuvent entrer, ce qui est une séduction supplémentaire. J'ai pu y aller. Voilà, bon, tout ça fait un lieu remarquable.
Michel Oslo, j'aimerais que l'on parle de votre parcours, de votre carrière. Vous êtes la référence du film d'animation en France et votre renommée va bien au-delà. Vous resterez à jamais pour des millions, sans doute des dizaines de millions de personnes, le père de Kérékou. Le premier long métrage est sorti il y a 25 ans maintenant, Kérékou et la sorcière. Ce film, vous le dites, il a changé votre vie. J'aimerais qu'on en parle un peu, parce que la naissance de ce projet, sa réalisation, c'est assez incroyable. Au départ, vous rencontrez un producteur qui vous dit « Laisse tomber les séries pour la télé, fais un long métrage ».
C'est vrai. Alors, il voulait un long métrage. Je lui ai écrit en une semaine, mais il faut dire que j'étais assez prêt. J'avais déjà un projet que j'ai simplement amplifié. Alors on était tous nouveaux, que ce soit le producteur et coproducteur, le réalisateur, l'auteur, les animateurs. C'était la première fois qu'on faisait un long métrage. Ça a été un peu difficile. Le financement a été très difficile parce que à l'époque il y avait un acte de foi. On ne peut pas faire un long métrage d'animation en France, ça n'a pas de succès. Et donc on ne voulait pas le produire, et ensuite on n'a pas voulu le distribuer. Et c'est un petit distributeur de province qui a dit « si, je vais faire quelque chose ». Le miracle, c'est que n'ayant pas d'argent, il s'est reposé sur le bouche à oreille, la publicité par les spectateurs.
Et il a réussi à convaincre des propriétaires de cinéma qu'il connaissait de tenter ce pari-là, c'est-à-dire de sortir
oui,
un
oui,
film
oui.
qui n'avait pas eu d'argent pour la promo, pour la pub, en leur disant Moi, j'y crois. Suivez-nous. C'est ce qui s'est passé.
Oui,
hein.
Oui. Et ça c'est ce qui s'est passé. Et en effet, il fallait connaître le terrain et savoir quel directeur de salle accepterait d'avoir le courage de garder le film alors qu'il semblait ne pas avoir de succès. Ces gens, il les a eus. Ils ont eu le courage de garder le film. Et la deuxième semaine, il y a eu plus de monde. La troisième semaine, il y a eu plus de monde. La quatrième semaine, il y avait plus de monde.
C'est-à-dire le parcours inverse, normalement, d'un film qui sort en salle. La première semaine, il fait un certain nombre d'entrées, puis en général, ça va déclinant. Vous, c'est l'inverse. Vous, c'est une progression lente, constante.
Et j'en suis fier. C'est les spectateurs qui trouvaient le film bien et qui ont recommandé aux autres. Et au bout d'un certain temps, les queues faisaient le tour du pâté de maison pour voir le film dont on en avait entendu parler. Donc c'est une très belle histoire et ça a changé. Et ma vie et la vie de bien des animateurs en France.
Parce que vous avez ouvert la voie, vous avez apporté la preuve qu'on peut faire un film d'animation et en faire un succès au cinéma, gagner de l'argent. Je crois que ça a été très compliqué, hein, la production de ce film. On vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Parce que beaucoup de producteurs n'y croyaient pas et se disaient, bah, si on le fait comme ci, si on le fait comme ça, ce sera plus vendeur. À un moment, on vous a dit, les peaux de vos personnages sont trop foncées, il faut les éclaircir.
Oui, donc je les ai foncées.
Vous avez fait l'inverse.
Parce que les mauvais conseils, je ne les suis pas, mais j'en tire des idées. C'est un film qui se passe en Afrique noire et il faut que les personnages, on n'ait pas honte et qu'ils aient la peau sombre. Et c'est une beauté du film, la beauté de ces peaux.
Quelque chose qui a bloqué aussi également, Michel Oslo, c'est que les femmes que vous dessinez, elles ont les seins nus et un responsable de la chaîne de télé qui participait au financement vous a dit bah non, ça c'est pas possible.
On me l'a dit dès le début du tournage, on craignait une levée de bouclier. Bon, on rêvait aussi d'être distribué aux États-Unis, mais moi je voulais d'abord faire un très bon film. Et les femmes n'ont pas les seins nus, elles sont simplement habillées normalement. La Guinée, quand j'étais petit, était comme ça. Les dames dans la rue avaient un pagne, un beau foulard, mais elles étaient torse-nu comme tout le monde. Et c'est une image que j'ai gardée, une population qui n'a pas honte d'avoir un corps. Il fait chaud, donc on se couvre peu. Et c'était vraiment une chose que je voulais transmettre. Si j'avais mis des soutiens-gorge à ces femmes, j'aurais eu l'impression de faire une chose obscène. Et la levée de bouclier qu'on prévoyait pour moi n'a pas eu lieu. Ça a été, à la sortie, l'harmonie absolue. Et personne n'en a parlé à la sortie. Et le film s'est vendu dans le monde entier.
Oui, parce que permettez-moi, enfin quand même, on est sur du cinéma d'animation, donc quand bien même les poitrines sont nues, il n'y a rien de sexuel, c'est simplement le corps humain, et ce corps humain comme ça représenté, hein. On ne voit pas effectivement en quoi cela peut être troublant, gênant, choquant.
Alors en gros, ça n'a pas troublé ni choqué, sauf les anglophones, mais c'était prévu. L'Amérique est un pays protestant. Elle craint ces choses-là. Alors maintenant, je pense que...
Protestant et pudibond.
Pardon ?
Protestant et pudibond.
Oui, très, très pudibond. Mais la peur du corps s'installe de plus en plus. Maintenant, on me parle des femmes de Kérékou, alors qu'à la sortie, on n'en parlait pas. On avait compris qu'elles étaient habillées normalement. Et maintenant, on pose des questions à ce sujet et je trouve qu'on fait marche arrière sur la décontraction face à la vie. Tout est interdit.
Pour l'anecdote, il y a quelques années, je crois, il y a 5 ans, des femmes d'Afrique du Sud qui ont l'habitude de faire des fêtes, qui ont l'habitude de célébrer leur tradition, des femmes zoulous et qui sont donc seins nus, avaient été censurées sur YouTube. Enfin, leurs vidéos étaient censurées parce que ça appartient à Google. Et Google, après, c'est des algorithmes, des filtres qui font que dès qu'il y a nudité, y compris dans un tableau, il faut censurer. On a entendu
cette histoire de ces... C'est effrayant. Mm-hmm. C'est effrayant. Ça existe aussi en France. Dans mon dernier film, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, j'utilise des images authentiques de l'Égypte antique que j'aime beaucoup. Et les déesses et les reines sont habillées normalement comme à l'époque. La robe s'arrête en dessous les seins. Est telle que c'est dessiné, c'est beau et on ne se pose aucune question. Mais on n'a pas pu passer la bande-annonce en France telle qu'elle était, à cause de ces seins qu'un algorithme voyait et que les autres ne voyaient pas. Et il a fallu refaire une partie des plans pour cadrer les femmes, la tête qui s'arrête au cou, pour ne pas voir plus bas. Et c'est effrayant, nous ne sommes pas libres.
Oui, c'est un sacré retour en arrière, effectivement.
Oui.
Il y a eu donc ces longs métrages après Kirikou, Azur Asmar, Dilili à Paris, Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse, votre dernier, donc sorti l'an dernier, trois contes, trois époques différentes. Vos films, Michel Oslo, ils s'adressent à tout le monde, à tous les âges. Quand vous faites un film, vous ne vous dites pas spécialement « je vais faire un film pour les enfants ou pour telle tranche d'âge ». Vous faites un film, point.
Oui. Exactement. Je n'ai jamais fait de film pour les enfants. C'est pour ça qu'ils m'aiment bien, parce que personne ne veut être pris pour un bébé, y compris les enfants. Et ils sentent que tout ce que je leur dis, c'est vrai. S'ils ne comprennent pas, une partie la devine et l'autre partie, ils la gardent en mémoire pour plus tard. Mais tout ce que je fais, c'est des choses auxquelles je tiens aujourd'hui et qui sont pour tous les âges, en effet.
On parle des âges. Je crois que quelque chose qui vous a surpris, c'est que quand bien même vous faites des longs métrages, des films pour tous les âges, vous vous dites quand même il faut avoir un minimum, il faut être âgé de 7-8 ans pour comprendre. Et en fait, vous êtes rendu compte que des enfants plus petits, plus jeunes, recevaient parfaitement vos films. Vous l'avez constaté de visu.
Oui. Je ne m'y attendais pas. Je croyais que ce que je faisais, c'était pour tout le monde à partir de 7 ans. Non, Kirikou, on le montre dans des écoles maternelles et ça marche. Ça m'effare un peu. Mais je fais des films d'une manière très simple et tout le monde comprend.
Des Kirikou, au final, il y en a eu trois. Vous ne vouliez pas au départ en faire un autre. Il a fallu vraiment vous convaincre. Ça a pris quelques années d'ailleurs, je crois.
C'est les gens qui m'ont... Ah oui, mais il a fallu plusieurs années. Les gens qui m'ont convaincu, c'est le public. Les petits et les grands me demandaient un autre Kirikou. Je disais non, j'ai fait un Kirikou et sorcière, ça me suffit. Je fais autre chose maintenant. On m'a tellement demandé, et un jour un Africain m'a dit, tu nous as fait du bien, tu n'as pas le droit d'arrêter. Et moi, et là j'ai craqué, et j'ai fait un Kirikou 2 que je ne voulais pas faire. Maintenant, je suis très content de l'avoir fait. Et puis, il y a eu un Kirikou 3 parce que la demande continuait. Je suis aussi content de l'avoir fait parce que j'ai été forcé à faire des petites aventures que je n'aurais jamais racontées si le public ne m'avait pas forcé. Ceci étant dit, je n'ai pas l'intention de faire un Kirikou 4, même si on me le demande.
Et vous ne délirez pas.
On me le demande encore.
Oui, ça j'imagine bien, Bon, voilà, vous vouliez pas faire le deuxième, il vous a fallu 6 ans pour changer de pied.
Oui.
Sait-on jamais.
On ne sait jamais avec Kirikou, mais mon idée à moi, c'est que je l'ai terminé avec Kirikou et les hommes et les femmes. Ah.
Michel Oslo, un dernier mot sur Kirikou, l'histoire de cet enfant qui au départ est dans le ventre de sa mère, ce petit garçon pressé de naître, ce petit garçon qui n'est pas grand mais qui est vaillant. En fait, beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, dans ce petit enfant qui est très attachant.
Mais c'est un miracle dans ma vie. Cet enfant touche tout le monde et dans tous les pays du monde. Il y a 25 ans qu'il est sorti. Et on m'en parle aujourd'hui comme s'il venait de sortir. Voilà, il me dépasse. C'est un personnage un peu radioactif.
Pourquoi vous dites radioactif ? Parce que vous n'arrivez pas à vous en dépêtre ?
Non, ça ne me gêne pas du tout qu'il existe et qu'on m'en parle. Et je peux bien en parler. Mais j'avais prévu tous les succès, mais pas de cette qualité. Et là, à certains moments, je me dis, ce n'est pas du succès, c'est de l'amour. J'avais pas prévu ça, à ce point.
C'est bouleversant.
Oui, j'ai pas perdu mon temps. Mais ça a déclenché d'autres films qui ne sont pas indifférents non plus.
Non, on les connaît, on les a vus.
On peut aussi dire deux mots quand même de Azur Asmar.
Bien sûr.
Que j'ai fait grâce au succès de Kirikou. Grâce au succès de Kirikou, tout le monde m'aimait, même les banquiers. Et on a eu assez d'argent pour faire un film très bien. Et Azur Asmar, j'ai un peu fait le tour du Maroc et en partant de Meknès, Et les vieilles villes, c'est ce que j'ai observé, photographié, dessiné au cours d'un voyage spécial pour préparation à Azur et Asmar.
Azur et Asmar, donc votre imagination, vous l'avez puisée ici au Maroc en visitant les anciennes villes impériales?
C'est les images en visitant les anciennes villes impériales, oui. L'histoire elle-même, je l'ai trouvée dans ma tête.
Michel Oslo, le parrain en quelque sorte du FICAM, figure tutélaire, vous allez prendre l'avion dans quelques jours pour nous rejoindre au Maroc. Qu'est-ce que vous en attendez de cette rencontre? Retrouver des amis, échanger, faire de nouvelles rencontres?
Ce qui me plairait, c'est de faire de nouvelles rencontres, et je vais le faire. Rencontrer la jeunesse, qui aime bien me rencontrer. Donc on est heureux ensemble. Bon, et puis retrouver un pays avec un climat, une végétation qui me plaît, parce que je suis méditerranéen, je suis né dans la région de Nice, venant de Paris et me trouvant à Meknès, c'est un petit parfum de paradis.
Michel Oslo avec nous dans Bain de Culture ce dimanche. Le FICAM a 21 ans et ça commence vendredi prochain à Meknès, bien évidemment. Merci beaucoup Michel Oslo.
Mais merci à vous David de m'avoir appelé.
Midi, Bain de Culture avec David Labo.
Lui s'est ouvert hier à Ouagadougou, le FESPACO, le grand festival panafricain, marque cette année sa 28e édition. Ça va durer toute la semaine jusqu'à samedi. Pays invité d'honneur cette année, le Mali. Des festivals qui s'ouvrent, un autre s'est refermé hier soir, celui de Berlin. La récompense suprême, l'Ours d'Or, a été décernée à un documentaire, L'Adamant. L'Adamant, du français Nicolas Philibert. Le film nous parle d'un projet thérapeutique original pour des personnes souffrant de troubles psychiques. Elles sont accueillies à bord d'une péniche à Paris.
Personne n'est parfait. Personne n'est parfait.
Alors, je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre.
Ah, je serais contente à votre place.
Je voulais vous dire que je suis très contente d'arriver sur le bateau.
C'est la fin?
Oui.
On se met dans la peau d'un autre et on croit qu'on va s'en sortir comme ça.
On a des têtes un peu cassées, peut-être, je sais pas.
Personne n'est parfait. Personne n'est parfait.
Voilà, la demande de Nicolas Philibert, un documentaire récompensé par l'Ours d'Or. Cette Berlinale, elle a rendu hommage également à l'un des réalisateurs américains les plus célèbres, Steven Spielberg. Il en a profité pour faire une annonce.
But we are mounting a big production with the cooperation of Christian Kubrick and Jan Harlan. We're mounting a large production for HBO based on Stanley's original script, Napoleon. So we are working on Napoleon as a seven-part limited series.
Voilà, surprise et sensation. Spielberg explique qu'il a décidé de donner vie à un projet abandonné par Stanley Kubrick qui voulait faire un film sur Napoléon. Cela se fera sous la forme d'une série pour HBO, donc il le dit, et sur ce projet il travaille avec Christiane Kubrick, actrice et épouse de Stanley. Steven Spielberg, plus d'une centaine de films à son actif. Le dernier, The Fablemans, est sorti cette semaine, un film autobiographique où il raconte sa rencontre décisive avec le cinéma. La suite, c'est Florence Blanc qui nous en parle.
Et on imagine Steven Spielberg, enfant, adolescent, filmer sa famille, ses parents, sa petite sœur, inventer des histoires.
Les films sont des rêves.
Tandis que la vie, la vraie vie, va le rappeler ensuite à la réalité.
Que l'on n'oublie jamais.
The Fablemans, c'est le dernier film en date de Steven Spielberg, avec entre autres Michelle Williams et Paul Dano. Un ours d'or d'honneur donc pour Steven Spielberg à la Berlinale. Steven Spielberg, le réalisateur le plus rentable du cinéma américain. Steven Spielberg, c'est plus d'une centaine de films ou bien de séries.
Je peux le garder avec moi.
Téléphone
à sa maison.
Quand le petit Elliot tombe sur l'extraterrestre qui vient de débarquer de sa soupe volante en plein Los Angeles.
Nul ne connaît les secrets de l'Arche. Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'Arche? Voulez-vous vraiment savoir?
Steven Spielberg aime beaucoup les extraterrestres, mais aussi les momies, les aventuriers, les aventures d'Indiana Jones vont nous tomber dessus.
Lâchez-la !
Encore plus ensuite, quand Harrison Ford, Indiana Jones, va retrouver son père, Sean Connery.
Junior !
Vous en prie, ne m'appelez pas comme ça.
Après toi, Junior.
Père !
Quoi ?
Père !
Quoi ?
J'ignorais que tu savais piloter un avion !
Piloter, oui ! Atterrir, non !
Tu appelles ça de l'archéologie ?
Des aventures, encore des aventures qui mêlent préhistoire et futur. Bienvenue dans une île, pas du tout comme les autres.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong ?
Bienvenue à Jurassic Park.
Jurassic Park va faire trembler des millions de spectateurs, tout comme auparavant Les Dents de la Mer, film culte de Steven Spielberg, signé dans les années 70.
Sortez tous de là !
20 ans après, Steven Spielberg va bouleverser le monde entier avec La Liste de Schindler.
Voilà.
Vous voulez ces gens-là ?
Mes gens, je veux mes gens.
Qui êtes-vous, Moïse ?
Oscar Schindler, industriel allemand, membre du parti nazi, qui prend conscience peu à peu de l'Holocauste. Alors il va embaucher plus d'un millier de juifs dans son usine pour les sauver des camps de la mort.
Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne fait pas.
Cette liste, c'est la vie.
Voilà, un sujet de Florence Blanc et donc ce dernier film de Steven Spielberg, The Fablemans, qui est sorti cette semaine sur les écrans au Maroc. Ça continue. Il est toujours à l'affiche à la Cinémathèque de Tanger, par exemple. Il va rester en place, il va rester dans la grande salle jusqu'au mois de Ramadan, jusqu'au début du Ramadan. Un dernier mot de cinéma. En France, les Césars ont été remis cette semaine. Triomphe pour La Nuit du 12 de Dominique Moll. 6 Césars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. C'est un film, personnellement, que je vous recommande chaudement. C'est vraiment, vraiment formidable. Voilà, Ban Culture, c'est terminé pour ce dimanche. On se quitte en musique, comme chaque fois, avec Clara Luciani. Excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement seule, celle dont j'ai l'air? Souvent je change. Regardez, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, t'es maquillé le noir à mes yeux. Ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Oh oh, ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Oh oh, ôter le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Pleureuse italienne ou un bon petit, mon bon petit soldat, comment tu me préfères? En héroïne ou en blessé de guerre? Cette vie que j'habite parfois me dépasse, parfois est trop petite. Peur que ma chance me quitte.